Vous êtes bien sur France Culture et dans quelques secondes, il sera midi et demi. C'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous rendrons tout d'abord en Israël, où l'atmosphère semble décidément de plus en plus délétère depuis que le gouvernement a décidé de durcir les mesures de reconfinement en raison d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.
Direction Marseille également, où là-bas, entrepreneurs et élus ne décolèrent pas contre la décision unilatérale des autorités de fermer les bars et les restaurants.
Oui, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a même prévu aujourd'hui d'attaquer le gouvernement en justice. Et puis, depuis ce matin, une manifestation est par ailleurs en cours dans les rues de la cité phocéenne.
La saignée se poursuit dans le secteur du transport aérien, victime de la pandémie.
Ce matin, l'équipementier Latéco Air, nom mythique de l'aviation française, a annoncé qu'il comptait supprimer 475 emplois en France sur les 1500 que compte le groupe. Après la démission brutale hier soir à Rome d'un influent cardinal, nous tâcherons de comprendre ce qui a bien pu pousser le prélat vers la sortie, et en particulier une enquête sur de possibles malversations financières. Enfin, à l'occasion de la journée internationale d'action pour le climat, invité de la rédaction aujourd'hui, Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter et auteur de « Que crève le capitalisme ». Comment endiguer la maladie sans porter un coup mortel à l'économie et comment concilier par ailleurs directives gouvernementales et opinions publiques quand la confiance semble plus que jamais brisée entre les dirigeants et leurs concitoyens. Voilà le dilemme auquel aucun gouvernement de la planète ne semble aujourd'hui pouvoir échapper en pleine recrudescence de Covid-19. Et à ce titre, l'exemple le plus frappant nous vient sans doute d'Israël. Là-bas, le reconfinement, une première parmi les économies développées, avait pris la semaine dernière la forme d'un immense test de solidarité nationale. Un échec, en réalité, au regard de la multiplication des exemples de désobéissance aux règles sanitaires. Et c'est ainsi qu'hier, retrouvant les accents de fin du monde qui étaient les siens durant la première vague, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé d'intensifier encore le reconfinement jusqu'au 11 octobre prochain. L'activité économique sera réduite aux services essentiels. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors rappelons pour commencer qu'Israël enregistre actuellement le plus haut taux de contamination au monde. Et hier donc, Frédéric, les autorités qui ces derniers mois ont parfois louvoyé, paraissant notamment céder aux intérêts particuliers des juifs orthodoxes, ont décidé de durcir les mesures de reconfinement.
Oui, c'est ça. Hier soir, Benjamin Netanyahou a défendu ces nouvelles mesures à la télévision. 60 morts supplémentaires du virus hier, 7000 nouveaux cas par jour, 10% des personnes testées positives. Il n'y a pas le choix, estime le Premier ministre israélien.
Nous allons encore payer un lourd tribut en vie humaine. Nous devons lutter ensemble. C'est de cette manière seulement que nous vaincrons l'épidémie. Et nous allons vaincre. Alors réveillez-vous. Assez est assez.
Dans moins d'une demi-heure, les synagogues seront fermées, mais elles rouvriront dimanche soir pour Yom Kippour. Le télétravail sera la règle, sauf pour les professions urgentes. Il sera interdit de voyager à plus de 3 personnes en voiture, sauf pour une famille. Interdit aussi et surtout de se réunir à plus de 20 personnes dehors. Pour les opposants à Netanyahou, qui manifestent depuis début juillet contre lui, il veut tuer leur mouvement. Écoutez Sarah.
Bibi Netanyahou a très peur des manifestations. Vous savez, il a tout essayé. Il met tout le pays en prison, mais c'est lui qui devrait aller en prison. C'est le problème avec Bibi Netanyahou. Il ne pense qu'à Bibi et à personne dans le pays, sauf lui.
Et figurez-vous Thomas, il n'est même pas encore certain que toutes les mesures dont je viens de parler entrent en vigueur, parce que les débats à l'heure où je vous parle s'éternisent au Parlement, qui doit encore voter l'état d'urgence. Écoutez quelques secondes la tonalité, le niveau des débats. Voilà, on parle très fort, on se coupe la parole, l'ambiance est délétère en Israël. Le problème c'est Netanyahou, écrit le quotidien Maariv. J'en ai la nausée, déclare le coordinateur national de la lutte contre le virus. Selon Yedioth Aharonot, le système de santé est au bord de l'écroulement. Le quotidien de droite Israël Hayom accuse les manifestants de vouloir combattre le Premier ministre plutôt que le virus.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Avec un nombre de cas en hausse dans la plupart des pays européens, couplé au début de l'automne et notamment à la grippe saisonnière qui se profile à l'horizon, la Commission européenne a, elle, lancé hier une alerte globale pour le moins inquiétante. Les chiffres de contamination enregistrés ces jours-ci seraient pires qu'au pic de la crise au printemps dernier. Les autorités attirent l'attention en particulier sur 7 pays, l'Espagne, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la République tchèque et Malte. Alors évidemment, l'UE n'a pas de compétences en matière de santé ni ne peut imposer aucun type de protocole. Tout juste, l'agence européenne chargée de surveiller les épidémies peut-elle exhorter ses membres à prendre des mesures immédiates pour éviter une deuxième vague. Sauf que tous les gouvernements se retrouvent aujourd'hui confrontés au même problème, le degré d'acceptation par la population déjà mise à l'épreuve par la première vague. En clair, vaut-il mieux des mesures douces acceptées par une majorité de citoyens ou des décisions strictes suivies par une minorité. La question se pose tout particulièrement en France, où depuis l'annonce mercredi dernier d'une nouvelle salve de restrictions sanitaires, le gouvernement semble à présent faire face à des résistances massives, sans compter que c'est aujourd'hui la forme autant que le fond qui semble susciter au mieux de l'étonnement, au pire de la colère. En l'occurrence, nombre d'élus dénoncent une forme de centralisme à outrance, incapable de faire émerger un quelconque consensus. Une situation que le Premier ministre dit toutefois assumer. J'ai décidé de prendre mes responsabilités, celles de l'État, s'est encore justifié hier soir. Jean Castex à la télévision, le locataire de Matignon qui, graphique à la main, n'a pas hésité par ailleurs à agiter le spectre d'un reconfinement localisé si l'épidémie continuait d'accélérer en France. Reste qu'à Marseille, cet exercice de pédagogie n'a visiblement pas convaincu les élus de tous bords, pas plus que les professionnels de la restauration, lesquels restent vent debout contre la fermeture totale des bars et restaurants. Rémi Brancato, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Marseille, où le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a annoncé son intention de déposer aujourd'hui même un référé devant le tribunal administratif pour faire annuler donc la décision du gouvernement. Et puis dans le même temps, Rémi, un appel à un rassemblement de protestation a été lancé devant le tribunal de commerce.
Et dans ce rassemblement, ce matin, les cafetiers et restaurateurs qui venaient déposer symboliquement le bilan ont dit leur envie de rester ouverts malgré cette interdiction, comme ce patron de restaurant de La Joliette.
Messieurs, dames, tous les restaurateurs, ne fermez pas!
C'est une honte de ce qui nous arrive et on ne fermera pas parce que on a des employés à faire travailler et à faire manger. C'est une honte!
Vous craignez pas d'être hors la loi?
On ne craint personne!
On reste ouvert, c'est le mot d'ordre pour Slavika, Antonia et Marilyn, ces restauratrices d'Aix-en-Provence, qui ne comptent pas non plus baisser le rideau.
C'est pas de la désobéissance,
c'est de la survie.
Et Monsieur Ferrand, vous étiez où quand sur la plage, ils étaient nos plages. Dans les Bouches-du-Rhône, ils étaient 700 serviettes à côté de serviettes. Là, il n'y avait pas de problème. Par contre, dans nos restaurants où on fait 30, 40 et même 50 couverts, là, c'est un problème.
Les restaurateurs appellent à manifester devant l'hôpital de la Timone cet après-midi, où justement le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu pour une visite. En attendant, vous l'avez dit, le président de la région PACA déposera un recours en justice contre cette fermeture. Samia Ghali, la deuxième adjointe à la maire de Marseille, présente également avec de nombreux élus ce matin, dit soutenir la démarche des restaurateurs.
Non, j'appelle pas la désobéissance, j'appelle tout simplement la résistance civique, c'est pas la même chose. Ils ont raison, mais la police municipale n'ira pas verbaliser. Voilà, c'est la demande que je ferai en tout cas.
Et pour l'instant, on ne sait pas quand les restaurants devront fermer. L'arrêté du préfet n'a pas encore été publié.
Merci Rémi Brancato en direct de Marseille. Alors si la méthode du gouvernement se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques, on se souvient que dès le début de l'épidémie, la crise sanitaire avait déjà mis en évidence les faiblesses de l'État, cette fois-ci sur le manque de moyens, des faiblesses confirmées par les données confidentielles de Santé publique France que le journal Le Monde s'est procurées et qui démontrent qu'à la veille de la pandémie, les stocks stratégiques de médicaments en France étaient au plus bas. En clair, on y apprend que l'État français était dépourvu tout à la fois de masques, d'antiviraux et d'antibiotiques. La chute en cascade des dominos estampillés Covid-19 se poursuit dans le transport aérien. Nouvelle victime de la pandémie ce matin. Le mythique équipementier Latéco Air a annoncé la suppression de 475 postes en France, soit près d'un tiers de ses effectifs. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Précisons tout de suite que cette nouvelle saignée vient en réalité s'ajouter à la suppression depuis le début de l'épidémie de 35% des effectifs à l'étranger. Puis surtout, Anne-Laure, c'est donc un exemple de plus des conséquences sociales de cette crise qui frappe durement le secteur aéronautique.
Oui, le groupe qui fournit les avionneurs Airbus, Boeing ou encore Bombardier subit la baisse d'activité de ses clients, une diminution de 40% de la cadence qui se traduit mécaniquement par une baisse de 40% de son chiffre d'affaires pour cette entreprise qui fabrique des portes d'avions, des tronçons de fuselage, des câbles pour l'aéronautique. Nous devons nous adapter, justifie l'Ateco Air. Alors à l'étranger, vous le disiez, il a supprimé 35% de ses effectifs, un peu plus de 1000 postes. Il a aussi taillé dans ses dépenses d'investissement et bénéficie en France d'un prêt garanti de 60 millions d'euros, tout en disant aujourd'hui ne pas avoir de problème de trésorerie, des mesures et des aides qui n'ont donc pas empêché ce plan de restructuration d'ampleur en France, un tiers des effectifs supprimés. Si aucun site industriel ne sera fermé en France, une petite unité de production sera stoppée près de Toulouse, seules les fonctions administratives étant conservées sur place. Ce plan aurait pu être encore plus dur, assure le directeur général du groupe, qui explique que 150 postes et 3 sites ont été préservés grâce à un travail fait en amont avec les services de l'État. Désormais, l'objectif, c'est de faire baisser ce chiffre de 475 suppressions de postes en activant tous les dispositifs gouvernementaux, activités partielles de longue durée, accords de performance collective. Des négociations vont s'ouvrir la semaine prochaine avec les syndicats. Elles sont prévues pour durer de 4 à 5 mois.
Merci Anne-Laure Jumet. On l'a appris il y a quelques minutes, une attaque à l'arme blanche a été perpétrée ce matin dans le secteur Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. Attaque qui aurait fait 4 victimes, dont 2 en urgence absolue, donc près des anciens locaux de Charlie Hebdo. 2 suspects sont actuellement en fuite. C'était il y a un an, Édouard Philippe dévoilait un plan d'action spécifique pour remédier aux difficultés hors normes de la Seine-Saint-Denis. En clair, casser ces spirales du déclassement et de la violence qui font aujourd'hui du 93 le département le plus pauvre de France. Pour y remédier, le locataire de Matignon avait à l'époque annoncé une batterie de 23 mesures, dont une prime pour fidéliser les fonctionnaires, le recrutement de policiers, mais aussi le financement de l'installation des médecins libéraux ou bien encore le renforcement du contrôle des logements insalubres. Alors où en est-on un an plus tard? Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la cité fertile à Pantin où le successeur d'Édouard Philippe, Jean Castex, s'est rendu ce matin. Premier ministre qui doit affronter la colère des élus locaux, lesquels dressent un bilan sévère en deçà, selon eux, des enjeux de leur territoire et dont la crise sanitaire a d'ailleurs, Rosalie, exacerbé un peu plus encore les fractures.
Oui, alors un rendez-vous écourté puisque tous les ministres sont sur le départ. Vous en parliez, il y a eu cette attaque dans Paris près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Donc tout le monde se rend manifestement à Paris. Mais ici, les promesses d'Édouard Philippe, on les a tous en tête. 23 mesures sur l'éducation, la justice, la sécurité, l'engagement d'aboutir à un État plus fort en Seine-Saint-Denis. Eh bien, un an plus tard, le constat est sévère pour Bertrand Kern, le maire socialiste de Pantin.
Pour le moment, il n'y a aucun effet. On est plutôt passé d'un État très faible à un État faible. Il reste faible cet État en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on est dans une violence sur le terrain qui est endémique dans nos quartiers. Et la police nationale, qui est la première concernée par la réponse qui doit être apportée en termes de sécurité, n'a pas les moyens de faire face. Quand on nous annonce 100 OPJ, c'est une bonne nouvelle. Mais 50 ou 100 policiers, en plus, c'est pas à la hauteur des besoins. Il en faudrait 10 fois plus.
Alors évidemment, voir une nouvelle fois toute une armée de ministres venir constater ce matin, avant de partir à l'instant, des effets qu'il ne voit pas, ça ne lui fait pas grand-chose à cet élu.
Moi, ça fait 19 ans que je suis maire, donc j'en ai vu défiler des ministres. Il y a des fois, je me dis, ils passent leur temps à aller sur le terrain et à venir vous voir, vous les médias. Mais il y a des fois, je me demande s'ils ne feraient pas bien de s'enfermer un peu avec leur administration et de suivre un peu les choses pour que, lorsqu'il y a des décisions politiques qui sont prises, ça soit suivi des faits.
C'était tout l'objet de cette visite écourtée. L'exécutif souligne quand même l'arrivée de 50 policiers à Saint-Ouen et la Courneuve. On annonce le décret pour concrétiser la prime pour les fonctionnaires qui restent en Seine-Saint-Denis. Pas sûr que cela suffise à convaincre un territoire qui, malgré les promesses et les visites, se sent toujours et encore plus avec la crise un peu plus démuni face aux enjeux qui sont les siens.
Merci Rosalie Lafarge en direct de Pantin ainsi qu'à Arthur Dumont pour les moyens techniques. Et quand on reparle toujours et encore d'Édouard Philippe que certains entrevoient déjà dans un nouveau rôle de premier plan, pour l'heure l'ex-premier ministre récuse lui toute autre ambition que de rester une sorte de trait d'union entre d'un côté la majorité et de l'autre la droite modérée. Ce qu'il fera d'ailleurs ce soir encore à Angers à l'invitation de la République des maires, une association fondée par l'édile local Christophe Béchu, lequel tient d'ailleurs aussitôt à préciser que son mouvement n'a pas vocation à devenir une écurie au service d'Édouard Philippe, il le dit à Stéphane Robert.
Édouard Philippe était membre de cette association. La ville du Havre avait déjà rejoint le mouvement, ce qui était assez logique, que le maire du Havre souhaite la réussite du gouvernement dont le Premier ministre était l'ancien maire du Havre. Il y avait une vraie forme de logique. Il est maintenant maire du Havre, il vient participer aux ateliers de cette association dont il pensait du bien. Il est le grand frère naturel de l'association. Il est lui aussi dans une position qui consiste à souhaiter la réussite du quinquennat. Donc de ce point de vue, il n'y a rien d'extraordinaire, même si certains aimeraient voir une rampe de lancement, une tentative d'aller constituer une écurie. Ça n'est absolument pas l'état d'esprit dans lequel il est. Et ça n'est pas non plus l'état d'esprit des 200 élus qui vont l'accueillir. C'est au contraire de se retrouver entre nous, de pouvoir partager nos diagnostics, nos analyses, de profiter de son expérience. Et que notre motivation, elle est vraiment de souhaiter la réussite de notre pays.
Voilà, Christophe Béchu, donc maire d'Angers, joint au téléphone par Stéphane Robert. C'était l'une des promesses du très médiatisé Grenelle contre les violences conjugales afin de lutter contre les féminicides, dont le nombre reste toujours alarmant. Après plusieurs mois d'atermoiement, le bracelet électronique anti-rapprochement destiné à tenir éloignés les conjoints et ex-conjoints violents va être déployé à partir d'aujourd'hui dans 5 juridictions avant d'être généralisé à l'ensemble du territoire le 31 décembre. Il était l'un des cardinaux les plus influents de la curie romaine et sa démission prématurée au sein de la haute hiérarchie catholique mondiale a toutes les allures d'une sanction. Hier, dans un communiqué laconique, le Saint-Siège a annoncé qu'Angelo Becciu avait accepté de renoncer à ses fonctions. Plus exactement, le prélat restera cardinal mais perdra tous les droits attachés à cette fonction et notamment celle d'élire un nouveau pape ou simplement de conseiller l'actuel souverain pontife. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Alors, il se trouve que le nom d'Angelo Becciu avait été maintes fois évoqué dans le cadre d'une enquête explosive lancée il y a un an sur d'opaques montages financiers pour acheter un immeuble dans le chic quartier londonien de Chelsea. Et évidemment, tout le monde soupçonne ce matin, Bruce, que ce soit cette affaire en particulier qui aurait pu donc précipiter la brusque chute du cardinal hier soir.
Oui, une affaire de corruption et de circuits financiers opaques qui remonte à 2014. À l'époque, Monseigneur Becciu était l'équivalent du ministre de l'Intérieur de François. Ce matin, selon le Messaggero, il se dit bouleversé, innocent et demande même au pape de pouvoir se défendre. Le pape, qui en effet frappe fort, alors que la justice vaticane poursuit son enquête sur ces immeubles de Londres. Mais il n'y aurait pas que ce scandale financier à 200 millions d'euros tout de même. La Repubblica révèle ce matin que le cardinal aurait détourné de l'argent du Vatican pour sa propre famille, ses frères. Car le cardinal Becciu avait en fait la main sur une partie des finances du Vatican. Au Vatican, il y a encore plusieurs canaux par lesquels passe l'argent. Il y a la banque, Lior, qui a été en partie restructurée. Il y a l'administration du patrimoine, qui a ses propres comptes et investissements. Et il y a toujours un budget à part pour la secrétaire d'État, dont Monseigneur Becciu était numéro 2. Ce matin, la seule réaction officielle est celle du cardinal Pell, qui a été blanchi il y a peu dans une affaire de pédophilie. Avant d'être écarté, il était celui à qui le pape avait confié la reprise en main des finances du Vatican. Eh bien, il déclare dans un communiqué lapidaire, le Saint-Père a été élu pour assainir les finances du Vatican, il a fait un long travail et doit être remercié et félicité pour les récents développements. Les règlements de compte ne sont pas vraiment terminés au Vatican.
Merci Bruce de Galzin en direct de Rome. L'invité de la rédaction à présent à l'occasion de la mobilisation mondiale pour le climat, Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter et auteur de Que crève le capitalisme, publié aux éditions du Seuil. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérod. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Première question monsieur Kempf, on le savait déjà, la catastrophe écologique est évidemment en marche et depuis le début de cette année est venue s'ajouter une autre crise dont on mesure à quel point d'un épisode grave elle s'est transformée peu à peu en véritable désastre, la crise du coronavirus. Diriez-vous que cette séquence inédite n'est au fond qu'une preuve supplémentaire de l'urgence qu'il y a aujourd'hui à changer de système ?
Oui, tout à fait. Il faut rappeler aussi que cette crise, la crise du Covid, est un effet de la destruction, de la catastrophe écologique, de la destruction de la biodiversité. Et aussi rappeler que les écologistes, les biologistes, les naturalistes disent depuis des 20 ans maintenant que de telles pandémies peuvent se produire de manière très importante. Donc liées à la destruction de la biodiversité ou à la destruction des forêts tropicales notamment, liées aussi à une mondialisation frénétique qui a accru la circulation du virus par le voyage aérien, et puis des politiques néolibérales aussi ou capitalistes qui ont affaibli dans un certain nombre de pays, dont le autre des services publics de l'hôpital, ce qui nous a empêché de réagir correctement à une crise qui est grave mais qui aurait pu être mieux gérée.
Hervé Kahm, vous décrivez cet acharnement de l'État, des États en tout cas, à venir à la rescousse du capitalisme, que vous appelez cet ivrogne insatiable, ce cauchemar de toxicomane. On est donc complètement accro. C'était le cas il y a plus de 10 ans, au moment de la crise financière. Le monde frôle déjà le précipice en 2008. Et puis, vous écrivez, pourtant, au lieu d'en profiter pour refonder le système financier international, rien de tout ça, aucune remise en cause. Bien au contraire, le capitalisme s'est réarmé idéologiquement ces dernières années, dans une phase, c'est celle que nous vivons actuellement, de capitalisme numérique et policier livré aux GAFAM, pour faire vite aux GAFA. C'est vraiment le cœur du problème.
Oui, tout à fait. Il ne peut pas y avoir un système de domination si les couches dirigeantes n'ont pas une vision de l'avenir, n'ont pas une vision de ce que peut être l'évolution de la société. Et dans les années 2000, le capitalisme perdait peu à peu cette vision. Il était seulement obsédé par la spéculation, par l'idée d'accumuler du capital, de faire monter les cours de la bourse
faire
et de maintenir les inégalités, un système d'inégalités. Ce qui s'est passé après 2008-2009, qui normalement aurait dû voir une remise en cause du capitalisme, c'est qu'il a construit un nouveau paradigme. Et un nouveau paradigme axé sur un développement de la technologie sans fin, et avec un événement important qui s'est produit dans le champ scientifique, c'est l'arrivée du deep learning, c'est-à-dire un grand progrès en intelligence artificielle qui a permis en quelque sorte d'amplifier des éléments qui étaient là, notamment avec les big data, les grandes masses de données possédé et contrôlé en quelque sorte par Facebook, par Amazon, par Google, et puis des capacités informatiques beaucoup plus grandes. Et donc, avec cet progrès énorme en intelligence artificielle, se forme l'idée qu'il va y avoir une quatrième révolution industrielle où vont fusionner des techniques en développement, l'informatique quantique, les biotechnologies, les nanotechnologies, et qu'on va même aller vers une hybridation avec des machines, vers un développement tout à fait extraordinaire.
Et donc, on a l'idée que la crise écologique qu'on vit, en conséquence de ce capitalisme néolibéral, sera résolue par la technique, par le transhumanisme, l'homme augmenté, c'est ça?
En fait, c'est ça qu'il y a d'inquiétant, et que cette crise écologique, la catastrophe écologique, n'est pas vraiment prise en compte par ces nouveaux dominants. Ils vont dire que la technologie résoudra par les OGM, par les géo-ingénieries, par la captation du CO2, etc. Mais ça n'est pas vraiment la préoccupation principale. La préoccupation principale, ça serait presque de lutter contre le vieillissement, voire de penser à l'immortalité, ou comme pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou pour Elon Musk, le patron de Tesla, d'aller dans l'espace. Voilà. Mais ce qui est de fascinant et de très inquiétant dans ce nouveau paradigme du capitaliste, c'est qu'en fait, ils assument l'idée qu'il y aura une caste inférieure, comme le dit par exemple M. Harari dans Homo Deus,
d'apartheid planétaire, oui.
Et qu'il y aura une petite élite privilégiée d'humains augmentés. C'est-à-dire qu'il y aura tous ceux qui seront laissés au chômage par le développement de l'intelligence artificielle, tous ceux qui seront laissés dans la misère, dans des conditions de survie, par la catastrophe écologique et climatique qui se développe, et puis une mince couche qui, elle, s'hybridera avec la machine et irait dans l'espace. Donc on peut effectivement parler d'un apartheid climatique.
Vous dites qu'il est plus facile, pourtant, en sachant tout ça, enfin, on le sait plus ou moins, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Pourquoi d'ailleurs vous proposez, c'est assez drôle, une petite série de questions dont les réponses peuvent aider peut-être à faire sauter ce blocage, hein, pourquoi on est bloqué sur le capitalisme. Qu'est-ce qui est le plus utile? Vous posez ces questions-là, un climatologue ou un trader, un infirmier ou une publicitaire? Est-ce qu'il est plus prometteur d'aller sur Mars que de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre? Bon, réponse semble assez évidente. Pourtant, ce serait mieux de garder ce système-là que d'aller vers quelque chose qui assure la pérennité de l'espèce. Pourquoi ?
Oui, je crois que c'est lié à une espèce de fatalisme. On accepte l'effondrement, la catastrophe écologique, c'est presque devenu un lieu commun, mais l'idée qu'on pourrait renverser le capitalisme ou qu'il pourrait passer à une autre phase historique n'est pas acceptée. Il y a aussi le fait qu'il y a un contrôle de l'opinion très large, puisque un grand nombre de médias sont possédés par des capitalistes, et donc ils reproduisent une vision du monde qui correspond à la leur. Et puis je crois qu'il faut changer les mécanismes mentaux, effectivement, et se dire on peut avoir des valeurs de coopération plutôt que de compétition, des valeurs d'échanges et de dons plutôt que d'accumulation, des valeurs de liens plutôt que d'accumulation de biens, et puis surtout, une fois de plus, poser la question de la catastrophe écologique qui doit être au cœur, qui est maintenant, en fait, la question politique essentielle de ce début du XXIe siècle.
Ça n'a pas l'air très bien parti, puisqu'on entend quand même que avoir un autre mode de développement, ce serait revenir, c'est d'actualité, on entend revenir à la bougie, vivre comme des Amish, ça ne va pas dans ce bon sens quand même, même si la prise de conscience, elle est là, et qu'il y a des connexions. opinion aussi, un mouvement social, vous, les écologistes. Donc,
alors, le fait que des gens sans vraie compréhension des problèmes recourent à l'injure signifie qu'ils ne savent plus quoi dire. Donc d'une certaine manière, qu'on se fasse traiter d'amiche ou de retour à la lampe à huile, bah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question écologique maintenant est vraiment sérieuse. Et finalement, on a une nouvelle configuration politique aussi, qui est d'un côté les capitalistes ou ceux qui défendent le système actuel de conservation, ou les écologistes.
Merci Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle également le titre de votre ouvrage, Que crève le capitalisme, publié aux éditions du Seuil. Merci également à Véronique Robérotte. Et puis je rappelle donc cette information que nous avons appris il y a quelques minutes. 4 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement ce matin à Paris, dans une attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Selon des sources policières, l'attaque a été commise à l'aide d'une machette ou d'un hachoir. 2 suspects sont actuellement en fuite et le quartier situé dans le 11e arrondissement de la capitale a été bouclé en raison de la présence d'un colis suspect. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Voilé mais lumineux à l'est et toujours perturbé à l'ouest avec des averses parfois orageuses. Les Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance orange pour inondation. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Marc Potvin pour le prochain journal de la rédaction.